Bonjour à la belle-mère. Bonjour à Immaculée. Qui d'autre est là? Bonjour au frère Edwin, à la sœur Heidi. Nous sommes vendredi le 29 juillet 2022. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie. Alors aujourd'hui, journée ensoleillée, encore chaud. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop d'orages hier. Il y en a eu sur la région de Montréal, mais c'était pas trop grave. Il y a des gens qui se sont inquiétés un peu, mais c'était gérable, comme on dirait. Bonjour à mon père, à ma mère, bonjour à la soeur Florie, au frère Louis, bonjour à Manon, au pasteur André, bonjour à ma soeur, à mon neveu. Et quant à la vie de tornade, c'était pour la région de Mirabel. Et puis la chute. Donc ça passait quand même un peu au nord de Montréal. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour à Evans, sa conjointe et à bébé. Vous avez encore un bon 6 minutes avant qu'on ne débute officiellement. Marie-André, bonjour. Je ne sais pas si Farley est avec toi ce matin, mais si elle est là, on la salue. Bonjour Guy, bon vendredi à toi aussi. Aujourd'hui, on a deux rendez-vous ce matin. Bien entendu, vous êtes déjà là. Puis ce soir, 19h, pour notre temps de prière et d'intercession. Alors, bien content de savoir que Farley est avec toi, Marie-André. On la bénit dans le nom de Jésus aussi. Merci, la belle-mère. Shalom. Merci, Manon. Bien content que le pasteur André et toi soyez là ce matin. Alors aujourd'hui, on continue notre étude dans 2 Timothée au chapitre 4. Et ce matin, on étudie particulièrement le tout dernier verset, le verset 22, toujours dans la thématique « Veillez à bien s'équiper ». Bonjour Nathalie, que Dieu te bénisse à toi, à ton époux et à la petite famille. J'espère que ça s'est bien passé cette semaine, que tu récupères bien. Bonjour Denise, bonjour Gérard. C'était Néma que vous entendiez boire, puis après ça, le boom d'à côté, c'était elle qui s'est écrasée au sol. À mes pieds. Un vrai pot de colle. Il est très 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 rare qu'elle soit dans une autre pièce que moi. Encore 2 petites minutes. Bien heureux, Nathalie, que ça se soit bien passé. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible avec eux ce matin, dans 2 Timothée au chapitre 4. Une petite minute et on va commencer. Donc on rappelle deux rendez-vous aujourd'hui, ce matin, et vous êtes connectés ce soir 19h pour notre temps de prière et d'intercession. Alors prions et nous débutons. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, ta bonté et ton amour à notre égard. Alors qu'on s'apprête à plonger nos regards dans ta parole, on te demande Seigneur de nous instruire. On te demande de déverser sur nous Seigneur tout ce que tu avais préparé d'éternité pour mon frère, ma sœur et pour moi. On te demande d'ouvrir notre entendement, notre intelligence, notre compréhension à ta parole, et que cette parole effectivement puisse trouver ou puisse être une, ou plus plutôt trouver une terre bien préparée pour la recevoir dans nos cœurs, qu'elle soit arrosée aussi par l'onction de ton esprit afin que cette parole puisse croître, s'enraciner et porter un fruit qui te sera agréable, tant de ce côté-ci du ciel que lors de l'éternité. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis toutes personnes qui sont connectées ce matin, mais aussi toutes celles qui se connecteront plus tard en journée ou même, Seigneur, dans l'avenir. Qu'une même grâce nous soit accordée à tous et chacun et que ta douce présence soit perceptible parmi nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis, je m'excuse, je lis pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 6 à 22, et je reprendrai le verset 22 à une ou deux reprises à la fin, puisque c'est le verset sur lequel on s'arrête ce matin. Le verset 6 nous dit dans 2 Timothée au chapitre 4, « Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ayons plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, c'est la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Je répète le verset 22. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Une dernière fois tous ensemble. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce matin, alors qu'on plonge donc nous regardons cette parole. Cette semaine, on a repris donc la thématique, pas de dimanche qui vient de passer, mais de l'autre avant, où on parlait maintenant non plus des personnages qui sont mentionnés dans ce chapitre 4 de 2 Timothée, mais plutôt des items, des outils, des choses qui semblent importantes aux yeux de Paul pour bien fonctionner. Et le premier item qu'on a vu lundi, et on a passé toute la séance de lundi à parler ou à développer sur cette thématique, c'était le mot grec « phailanos ». Phailonès, qui parlait du manteau tel qu'on le voit dans le verset 13. Pour ceux qui prennent des notes, on a bien sûr étudié les versets 13, les versets 17 et les versets 22. Dans le verset 13, il nous parlait au tout début. Il disait à Timothée, lorsque tu passeras par Troas chez Carpus, assure-toi d'apporter avec toi le manteau que j'ai laissé là-bas. Et on a vu que le manteau qui était suggéré ou qui était présenté avait une utilité toute particulière. Ce n'était pas un manteau de gala, ce n'était pas un manteau lorsqu'on se présente dans un lieu officiel, ce n'était pas un manteau d'hiver, ce n'était pas une simple tunique, c'était un manteau qu'on utilisait dans un moment particulier de la vie, qu'on appelle une tempête. Un manteau qu'on utilisait lors d'une tempête. Pour ceux qui voudraient peut-être se faire une idée de la forme de ce manteau. À l'époque, on appelait ça un poncho. Je sais que ma sœur en portait régulièrement à l'époque de l'école primaire, notamment. Donc, c'était une espèce de tunique rectangulaire, une pièce de tissu rectangulaire dans lequel il y avait un trou en plein centre et par lequel on passait la tête. Parfois, il y avait, ou même la plupart du temps, il y avait un capuchon qui était greffé à cet orifice où on passe la tête, mais parfois ça pouvait aussi être tout simplement le trou. Donc c'était un espèce de drap plié en deux et sur le milieu, donc un trou pour passer la tête. Faïlonès nous parlait donc de ce manteau tout particulier qu'on mettait lors de la saison des pluies, lorsqu'on allait sortir et on savait que la tempête pouvait fondre sur nous. C'était un manteau qu'on utilisait aussi régulièrement lorsqu'on était sur une embarcation au large, que ce soit sur la mer ou sur un lac, et qu'on savait que la pluie pouvait venir, voire la houle, avec le vent qui pouvait amener donc des vagues assez fortes pour mouiller l'intérieur du bateau et donc ses occupants. Donc on mettait ce manteau-là. Pour nous, cette première leçon de lundi, c'était de savoir que il nous faut, lorsqu'on se met à marcher avec le Seigneur, lorsqu'on chemine avec Dieu, savoir qu'on n'est pas à l'abri des tempêtes. Plus encore, qu'il nous faut nous préparer aux tempêtes. Le verset par excellence qui nous révèle la chose, c'est ce verset qui nous dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Ce qui ne veut pas dire qu'on va nécessairement souffrir, mais qui veut dire que si on doit souffrir, on s'est préparé à l'avance. Et ça, c'est le grand malheur qu'on a discuté cette semaine, du fait que les gens ne veulent pas se préparer aux temps difficiles par superstition. Plusieurs disent « ben, si je commence à parler de maladie ou si je commence à penser à la maladie, alors je vais être malade ». D'autres vont dire « si je commence à parler sur la mort, alors assurément, moi ou quelqu'un de mon entourage va venir à mourir ». Si je parle de pauvreté, ben alors assurément, une malchance va me tomber sur la tête et puis je vais devenir pauvre. Ça, on appelle ça de la superstition. Et le croyant, l'enfant de Dieu, ne vit pas sous la superstition. Il vit dans la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait comme étant réel. Et cette ferme assurance, nous l'avons en Christ. Notre assurance, notre foi, notre espérance et notre espoir sont placés en Christ. Alors voilà pourquoi nous ne devrions pas être sujets à la superstition, comme on le mentionnait tout à l'heure, ces personnes qui ne veulent pas aborder une thématique de peur que celle-ci ne leur tombe sur le crâne. Foncièrement, lorsque je refuse de me préparer à la tempête, je me mets moi-même en danger. Lorsque j'emprunte une embarcation, que je vais au large, si je ne me suis pas préparé à la tempête et que celle-ci vient à fondre sur moi, ben, il y a des risques de naufrage, il y a des risques de perte de vie, il y a des risques de boire la tasse, comme on dit au Québec. Toutefois, si je me suis bien préparé, avec un gilet de sauvetage, avec peut-être un certain contenant pour écoper l'eau, ben à ce moment-là, j'ai bien moins de risques de chavirer, voire j'ai beaucoup plus de probabilité de passer sain et sauf la tempête. Nous devons nous armer de la pensée de la tempête. Nous devons nous y préparer. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque d'assurance, c'est tout simplement être des gens qui bâtissent avec sagesse et avec circonscription. Donc, à se préparer aux tempêtes. Le mardi, on a vu le terme « biblion » et le terme « membrana ». Toujours dans ce verset 13 où on parlait, Paul disait « amène-moi les livres » et les livres, c'était donc les livres sacrés. Les textes bibliques qu'il avait en sa possession à Troas, il disait qu'il avait besoin de ces livres-là. Donc, pour nous, encore un enseignement, comme quoi nous devons nous préparer à la tempête en plongeant nos regards dans la parole. Parfois, on lit la parole et celle-ci a un effet direct, instantané, présent sur nous. Elle a aussi un effet qui est différé dans le temps, un effet à retardement. C'est un peu une gibecière dans laquelle on met de la nourriture en conséquence, en vue du voyage que nous avons à faire. Lorsqu'on fait une traversée en bateau, Ben, sur le bateau, on n'a peut-être pas l'équipement pour faire griller le poisson qu'on pourrait pêcher. Alors, à moins qu'on soit amateur de sushi, la traversée pourrait s'avérer assez longue. Alors, ce qu'on faisait habituellement, c'est que lorsqu'on s'apprêtait à une traversée, on amenait aussi ce qui était nécessaire pour le voyage, un peu de nourriture, un peu à boire. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on habitait encore en France, et qu'à l'occasion, on allait visiter des amis qui se trouvaient à Genève, en Suisse. On se faisait un lunch pour aller. On prenait le train qui nous menait jusqu'à Genève et on venait nous chercher là-bas. Mais ce voyage, ce trajet, c'était quand même plusieurs heures. Alors, on se préparait à ce voyage et on avait donc notre petit lunch. Un peu comme quand on allait à l'école aussi. On ne rentrait pas à la maison pour dîner, en tout cas au primaire. On prenait l'autobus le matin, il nous ramenait le soir venu. Mais entre les deux, ben, il nous fallait dîner à l'école. Donc on partait avec une boîte à lunch. Et ça, c'est se préparer. On fait la même chose avec la parole de Dieu. On mange, on se nourrit de cette parole avec un effet immédiat, mais aussi avec un effet sur le long terme, voire sur notre avenir. Et parfois, on passe par des moments plus difficiles, et c'est dans ces moments-là que nous ramenons à notre mémoire ce qui nous a été enseigné et ce que la parole de Dieu nous a appris. Donc, s'ancrer dans la parole de Dieu. De surcroît, cela, Paul va dire, j'ai besoin des parchemins. Les parchemins, c'était ces membranes faites de cuir sur lesquelles Paul avait l'habitude d'écrire à l'église, aux églises en fait. Et il disait à Timothée, même si je me retrouve dans une grande tempête, même si je sais que ma fin arrive et j'ai besoin que tu viennes me retrouver, donc avant que la mort ne se saisisse de moi, puisqu'il se savait condamné à mort, il disait, j'ai besoin encore des parchemins parce que j'ai encore des choses à donner à l'Église. Et tant que je suis vivant, je veux encore travailler pour le Seigneur. Donc, notre troisième point cette semaine, c'était veiller à être utile même durant la tempête. La tempête n'est pas un temps de pause. La tempête n'est pas un temps de stagnation. La tempête devrait être aussi pour nous l'occasion de continuer à être utile pour l'avancement du royaume. Et je vous parlais un peu de cette période où j'ai été malade et pour moi c'était un pied de nez que je faisais au diable d'être capable de continuer à œuvrer, à travailler et un pied de nez que je faisais à la maladie en lui disant en fait tu pensais être capable de me réduire au silence mais je vais continuer à travailler pour Christ. Et je faisais tout ce qui était en ma possibilité. Lorsque je me ramassais à l'hôpital pour des traitements, voire pour l'opération que j'ai eu à subir et tout ça, c'était un honneur pour moi de parler à tout le monde autour de moi de Christ. Alors je veillais à être utile, même durant les moments de tempête. Dans les versets 17, dans le verset 17, on a étudié trois termes. Le verset 17 nous disait, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Donc on a parlé de l'assistance de Dieu. On a parlé par la suite, il nous dit, c'est lui qui m'a fortifié. Donc on a parlé de la force ou de la fortification que Dieu apporte. Et il dit à la fin du verset, et j'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai été délivré. Donc assistance, force ou fortification. Et délivrance, trois mots. Donc dans le premier, l'assistance, c'était de trouver auprès de Christ notre refuge. Savoir avant la tempête où se trouve notre refuge. Quand on arrive dans un avion et qu'on s'apprête à décoller, il y a toujours ce petit message qui nous est donné par le chef de bord et puis les hôtesses. Où on nous dit, ben voici ce qui se passe en cas de danger, et particulièrement, sachez que les issues de secours se trouvent à tel endroit, et à tel endroit, et à tel endroit dans l'avion. Et ça, on doit nous le dire avant que le moment difficile, ou avant d'être dans un point où on doit utiliser ces sorties de secours. Donc avec Christ, c'est la même chose. Savoir où est notre refuge avant que la tempête n'arrive. Savoir décider et reconnaître où nous trouverons son secours lorsque la tempête arrive, si la tempête arrive. Et ça se décide pendant la période calme. Pourquoi? Parce que sinon, si je ne sais pas où ça se trouve avant que la tempête arrive, quand le tourbillon, quand le vent, quand la tempête va se déchaîner, je ne vais pas avoir ce premier réflexe initial, instantané, de me tourner vers Christ. Il est donc important, maintenant que ça va bien, maintenant que les choses sont calmes, de savoir reconnaître et trouver en Christ notre refuge. Fortification, c'est lui qui m'a donné la force ou qui m'a fortifié, c'est donc veiller à trouver sa force en Christ. C'est savoir reconnaître que nos forces personnelles sont limitées et que nous avons donc besoin de la toute-puissance de Christ. Remarquez que nous pouvons être puissants, mais nous ne pouvons pas être tout-puissants sans Christ. Nous sommes tout-puissants à cause de Christ. Nous trouvons une toute-puissance à travers Christ. Pourquoi puis-je dire que nous trouvons une toute-puissance à travers Christ? Puisque la Bible me dit que c'est par lui ou à travers lui que je puis toute chose. Alors si je puis toute chose, j'ai donc une toute puissance qui m'est accordée, mais cette toute puissance ne se trouve pas dans mes habiletés personnelles, pas dans mes connaissances personnelles, pas dans mes talents personnels, mais cette toute puissance ne peut se trouver qu'en Christ. Et ça, c'est important de le reconnaître, même lorsque je suis fort, même lorsque je suis dans des moments où j'ai l'impression d'exercer une certaine puissance, une certaine autorité, que je sache déjà maintenant que tout cela n'est pas de moi, mais de Christ. Oui, ça prend une certaine humilité, ça prend une certaine modestie pour reconnaître tout ça, et c'est un danger qui nous guette tous et chacun, d'être si habitué à la manifestation de l'Esprit-Saint, si habitué à la manifestation de la puissance de Dieu, qu'à un moment donné, on vient à confondre qui est la raison d'être de cette puissance. Certains, à un moment donné, vont commencer à croire, « Ah, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, que maintenant, il n'a d'autre choix que d'être avec moi. » Dieu peut tout, et Dieu peut aussi nous abandonner comme ça, s'il le désirait. Si l'orgueil vient à se pointer en nous, la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ça veut donc dire que parfois les tempêtes de notre vie et notre incapacité à faire face aux tempêtes de notre vie, ça vient parfois aussi parce que on a pris la gloire au lieu de la laisser entre les mains de Christ. Et on a pris pour nous cette toute-puissance, pensant qu'elle dépendait de nous, ou l'affichant comme émanant de nous, et en n'étant pas capable ou en n'étant pas assez sage pour s'abaisser afin que Christ s'élève. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes qui ait existé. Et Jean-Baptiste va dire, il est important que je disparaisse, il est important que je m'abaisse et que lui s'élève. Alors qu'on parle du plus grand des prophètes. Et il dit, non, mais même face à lui, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et ce verset-là est important. Quand la personne qui déliait les courroies de sandales, c'était l'esclave qui allait laver les pieds d'un visiteur ou de quelqu'un en autorité. Et dans la maisonnée, celui qui lavait les pieds, celui qui défaisait les sandales, c'était le plus bas de tous les esclaves qui existaient. Et Jean-Baptiste va donc dire, même parmi les plus bas des esclaves, moi je ne suis même pas digne encore là d'élever, de m'approcher de lui et de délier ses sandales. Je suis le pire des esclaves et encore là, je ne suis pas encore assez abaissé. Alors ça, c'est une leçon d'humilité que Jean-Baptiste nous donnait. Délivrance, dernier terme qu'on a vu hier, c'est savoir trouver en Christ notre secours. Trop souvent, lorsque la tempête survient, on essaie de trouver par nous-mêmes un moyen de nager, un moyen de ramer plus fort, mais qu'on puisse trouver refuge, secours auprès de Christ. Le verset par excellence pour illustrer la chose, c'est le roi David qui, dans sa toute-puissance, va, et dans le paroxysme de son règne, va dire « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Et il dit « Le secours me vient de l'Éternel. » Savoir que notre secours, en tout temps, en toutes circonstances, ne peut venir que de Christ. Et là encore, c'est un constat qu'on doit faire lorsque les choses vont bien, afin que lorsque les choses iront moins bien, on puisse se rappeler de cette vérité absolue, comme quoi notre secours ne peut venir que d'un seul endroit, donc Christ. Aujourd'hui, dans le verset 22, on va voir trois points répartis sur deux mots. Donc, que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. L'utilisation du singulier et du pluriel est un peu problématique parce que dans la langue originelle, il n'y a pas une différence ici avec le « tu » ou le « vous », avec le « tutoiement » ou le « vouvoiement ». Donc, il est difficile de dire si effectivement un terme était au singulier et l'autre terme, et l'autre phrase plutôt, au pluriel. Ça pourrait être que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec toi, tout comme ça pourrait être que le Seigneur soit avec votre esprit et que la grâce soit avec vous. Donc ici, dans la version Louis II, on l'a fait un singulier pluriel, mais ça pourrait être les deux au pluriel ou les deux au singulier. Ce qui ne change pas nécessairement la portée de notre pensée ce matin. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Seigneur, le terme Kyrios qu'on a revu même dimanche dernier, et le pasteur André a aussi enseigné sur cela dans un autre contexte totalement différent, avec un texte complètement différent. Moi, j'étais dans le Nouveau Testament avec 2 Timothée 4 et le pasteur André, ce mercredi, était avec les derniers versets de Jonas au chapitre 1, donc dans l'Ancien Testament. Et on a parlé de la même notion d'avoir Dieu comme Seigneur et d'être vraiment sujet, serviteur du Maître. Il va dire que le Seigneur, donc Kyrios, le propriétaire, le possesseur, soit avec ton esprit. Être avec, c'est un terme grec qui vient en un seul mot, qui se dit meta, M-E-T-A, M-E-T-A. Et on va revenir sur ce terme parce que c'est là où il y a une subtilité dans ce terme qui est particulièrement appréciable ce matin. Donc le Seigneur, meta avec ton esprit. Esprit, le terme pneuma, P-N-E-U-M-A, pour ceux qui prennent des notes, c'est un terme qu'on a déjà vu. Alors, Seigneur veut dire propriétaire et possesseur. Esprit, le terme pneuma, P-N-E-U-M-A, qui parle le centre de la raison et des sentiments. Méta veut dire au-dessus ou bien plus. En fait, ce verset dit que le Seigneur soit bien plus que ton esprit. Si on devait le traduire dans une version très contemporaine, très simplifiée, très familière, ça serait que le Seigneur soit bien plus que ta propre pensée. En fait, veillez à discerner et à prôner la pensée de Christ. Voilà ce que nous amène Paul ici dans ce contexte. Que la pensée de Christ soit connu, qu'on puisse connaître la pensée de Dieu pour nos vies, qu'on puisse connaître la pensée de Dieu pour notre existence, mais qu'on puisse aussi prôner la pensée de Christ pour notre existence. Parce que c'est une chose entre connaître et adopter, c'est une chose entre connaître et faire de cette pensée le maître de notre existence. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu et qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui connaissent la pensée de Dieu et qui n'obtempèrent pas face à la pensée de Dieu. Ici, Paul est en train de dire, il faut que la pensée de Christ, il faut que le Seigneur soit au-dessus de tes pensées. Il faut donc que la pensée de Christ soit au-dessus de la tienne. Il faut qu'elle ait plus de poids. Il faut qu'elle ait plus de valeur. il faut qu'elle ait prédominance sur la tienne. Si la pensée de Christ diffère de ta pensée, celle que tu dois adopter, celle à laquelle tu dois te conformer, n'est pas ta pensée, mais la pensée de Christ. Et pourquoi est-ce important? Ben parce que Christ sait comment traverser à travers la tempête. Christ sait comment nous conduire de l'autre bord. Moi, je ne sais pas traverser une tempête. Je rappelais hier que parfois, lorsque quelqu'un est malade, on dit « il faut te battre contre la maladie ». Encore jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que veut dire se battre contre la maladie. Moi, je me suis juste, et je le répétais hier, je me suis juste rendu dans mes rendez-vous médicaux. J'ai pris les médicaments qu'on me disait de prendre. J'ai suivi les traitements qu'on me disait de suivre. Celui qui combattait pour moi, c'était Christ. Moi, j'étais tout simplement là à être dans l'endroit où Dieu me voulait, au moment où il me voulait, en train de faire ce qu'il me voulait. Le combat n'était pas entre mes mains, le combat était entre les mains de Christ. Donc savoir non plus dépendre de nos pensées, mais dépendre de la pensée de Christ. Pourquoi est-ce si important aussi? Mais parce que nos pensées humaines, si bonnes soient-elles, sont quand même tachées par la tare du péché. Elles sont quand même contaminées par notre nature pécheresse et de façon tout à fait naturelle, intrinsèquement à notre nature pécheresse, celle-ci va nous éloigner de Dieu. Comme elle est affectée, comme elle est contaminée par le péché, notre nature ne pourra pas nous amener vers Christ. À moins que nous soumettions notre nature à la pensée de Christ, à moins que nous soumettions nos pensées à la pensée de Christ, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur et nous ne pouvons pas aller dans la bonne direction. Nos pensées, même si elles nous paraissent sages, même si elles nous paraissent intelligentes, même si elles nous paraissent bien montées, elles sont insuffisantes pour nous faire aller au ciel, pour nous faire aller vers le salut. Alors nos pensées, on doit les soumettre à la pensée de Christ. Donc le premier point aujourd'hui, qui est le septième dans cette semaine, veillez à discerner et à prôner la pensée de Christ. Que la pensée du propriétaire, la pensée du maître, la pensée du Seigneur soit au-dessus de notre esprit, au-dessus de nos pensées, au-dessus de notre logique. Et le dernier passage de ce verset et de ce chapitre et de ce livre, il va dire que la grâce soit avec vous. Encore une fois, être avec, donc méta, au-dessus. Donc que la grâce soit au-dessus de toi. Le terme vous, toi, c'est non seulement toi, tu, vous, mais c'est aussi tiens, ton, votre, vos. Donc c'est tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Que la grâce soit au-dessus de tout ce que je suis et au-dessus de tout ce que j'ai. La pensée de Paul, c'est que pour traverser la tempête, pour pouvoir cheminer adéquatement, même en période de tempête, il nous faut rester dans la grâce de Christ. C'est cette grâce qui nous mène à bon port. C'est la protection qui nous est offerte gracieusement par Christ qui peut nous amener à bon port. C'est la sagesse qui nous est offerte par grâce, par Christ, qui peut nous conduire jusqu'à destination. C'est la pensée parfaite de Dieu et la volonté parfaite de Dieu qui peut nous permettre de passer à travers nos moments difficiles. Et cette pensée parfaite de Christ, cette sagesse ineffable de Christ, nous est offerte par grâce. Donc savoir demeurer dans la grâce de Christ. Mais de surcroît à cela, demeurer dans la grâce de Christ, ça veut dire que je demeure comme un bénéficiaire de la grâce de Christ. Alors on sait tous que nous ne pouvions pas par nos propres efforts mériter la grâce de Christ. On ne mérite pas une grâce. Elle nous est accordée en dépit et malgré nous. Elle nous est offerte gratuitement sans qu'on ne la mérite. Lorsqu'on parlait d'une grâce royale à l'époque des monarques, c'était quelqu'un qui était condamné. Une fois par année, le roi émettait un édit dans lequel il disait « Je gracie telle ou telle personne ou tel type de prisonnier. » On en a beaucoup parlé lorsqu'on a parlé de l'année de grâce, de l'année du jubilé, où on disait que toutes les dettes de ceux qui en avaient contracté à travers les dernières années, lorsqu'on est arrivé à l'année du jubilé, à la 50e année, donc toutes les dettes étaient ramenées à zéro. On effaçait les dettes. Et ça, c'était une grâce qui était fixée par Dieu pour son peuple, pour l'ensemble du peuple. Alors, ceux qui bénéficiaient de cette grâce ne pouvaient pas être égoïstes et dire « Ah, tout ce que j'arrive à faire maintenant, c'est à cause de moi. » Non, ils se rappelaient inévitablement ou inéluctablement que peu importe ce qu'ils avaient, peu importe ce qu'ils appréciaient, peu importe quel était le statut, même glorieux qu'ils pouvaient atteindre, ils savaient que tout ça avait débuté, avait commencé par la grâce qui leur avait été accordée. Et nous, qui sommes appelés à régner avec Christ, nous qui sommes appelés à gouverner avec Christ, cette capacité à régner avec Christ et à gouverner pour l'éternité avec Christ, ne nous est accordée que par grâce, parce que tant toi que moi, aucun d'entre nous ne méritait cette grâce. Nous étions condamnés par nos offenses. Nous étions condamnés par les péchés qui étaient nôtres et par la nature pécheresse qui était nôtre. Mais nous sommes aujourd'hui en voie du ciel, nous sommes aujourd'hui en marche vers l'éternité aux côtés de Christ. Et cette grâce, ce privilège, nous est accordé malgré nous-mêmes. Et là, la pensée que vous m'entendez régulièrement rappeler et mentionner, pour l'éternité, nous ne serons pas autre chose que des rachetés, nous ne serons pas autre chose que des graciés. Alors, pour l'éternité, même lorsque j'apprécierais le paroxysme de l'autorité, de la puissance, de la gloire à côté de mon Seigneur, je me rappellerai pour toujours que je suis un gracié. Même lorsque le gracié devient une personne élevée en rang et en respect et en honneur, le gracié reste malgré tout un gracié. Et se rappeler que je suis un gracié, se rappeler que je suis un racheté, se rappeler que j'ai été pardonné malgré moi-même, ça suscite chez moi, ça devrait du moins susciter chez moi, comme chez vous, une dose, encore une fois, d'humilité et de modestie. La gloire est beaucoup moins somptueuse ou beaucoup moins, on va dire, vaniteuse lorsque je me rappelle qu'elle m'a été accordée bien malgré moi. Alors, se rappeler de rester dans la grâce de Christ, donc accessible à cette grâce ou disponible à cette grâce, et de surcroît se rappeler que cette grâce impose chez moi de bannir l'orgueil, de bannir cette fierté très mal placée qui vient malheureusement parfois nous envahir avec le temps. Il semble qu'à un moment donné on se met à servir et on croit que on sert Christ parce qu'on le mérite. On croit qu'on sert Christ parce que il ne peut pas se passer de nous. On pense qu'on sert Christ parce que j'ai fait tellement de choses que maintenant je suis un grand quelqu'un et il n'a d'autre choix que de m'utiliser. Pour le restant de l'éternité, Dieu peut encore faire toutes choses sans moi, sans toi. Le pasteur André le disait très bien, une expérience qu'il a eue et qu'il relatait mercredi. Je ne vous raconte pas le témoignage, à vous d'aller écouter la prédication ou l'enseignement plutôt de mercredi. Mais Dieu lui disait à un moment donné, mais tout ça, je pouvais le faire sans toi. J'aurais pu utiliser des pierres pour pour le faire. Et ça, c'était une réalité pour le pasteur André, c'est une réalité pour le pasteur Florent, mais c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas tenu de nous utiliser. Nous ne serons jamais indispensables pour Christ. Il peut tout faire encore aujourd'hui sans nous. S'il nous utilise, s'il nous permet de mettre l'épaule à la roue, s'il nous permet de mettre la main à la pâte, c'est par grâce, par grâce, par grâce et par grâce. Pourquoi? Parce que je suis, je reste, je demeure et je serai pour l'éternité un bénéficiaire de la grâce de Christ, ayant été gracié et demeurant gracié. Alors prions. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a appris cette semaine, pour tout ce que tu nous as rappelé cette semaine. Merci Seigneur pour ces éléments qu'on a vus distinctement ce matin, notamment Seigneur d'apprendre à discerner ta pensée et d'apprendre à prôner ta pensée au-dessus de nos propres pensées, au-dessus de notre propre sagesse, au-dessus de notre propre connaissance, au-dessus même des choses glorieuses de notre vie, que nous puissions nous abaisser, sachant, Seigneur, que ta pensée est combien plus sage, combien ineffablement plus judicieuse que notre propre pensée. De surcroît à cela, Seigneur, tu nous apprends aussi ce matin à veiller à demeurer dans la grâce de Christ, veiller à demeurer bénéficiaire de cette grâce et par conséquent, demeurer dans notre statut de gracié et dans le constat permanent de notre état de gracié. Même dans l'éternité, je ne serai qu'un gracié. Et je veux me rappeler, je ne veux pas que l'orgueil s'empare de moi, je ne veux pas que la suffisance s'empare de moi pour croire que je suis autre chose qu'un gracié qui bénéficie encore aujourd'hui des effets de la grâce de Christ dans sa vie et qui est dépendant, totalement dépendant de la grâce de Christ. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle notre rendez-vous ce soir, 19h, pour notre temps de prière et d'intercession. Que Dieu vous bénisse et on se revoit donc ce soir, 19h. Au revoir tout le monde.